En Afrique, ils sont en manque de tout. Et justement, la ligne éditoriale de l'émission, au-delà du rapport de l'homme à la nature, qui est la ligne de base, on va dire, c'est comment concilier environnement et développement.
C'est pas du vent, c'est vraiment pas du vent. L'émission d'Anne-Cécile Bras chaque samedi et chaque dimanche sur Radio France Internationale, l'émission d'environnement et de développement durable de la station, c'est pas du vent d'Anne-Cécile Bras est réalisée par François Porcheron, mine de rien, un vrai tandem.
L'histoire, c'est pas tant Anne-Cécile Bras, c'est plutôt la thématique de l'émission. Anne-Cécile est très sympa, mais c'était pas pour travailler avec elle que je me retrouve ici, c'est plus pour travailler sur la thématique de l'environnement.
Un sacré tandem, avec pour rayon d'action les 300 correspondants de Radio France Internationale à travers le monde.
C'est la chance que l'on a à RFI, hein. On a un réseau de plus de 300 correspondants dans le monde. On peut demander comme ça des reportages un peu partout. On peut nous-mêmes, François Porcheron, le réalisateur de l'émission, et moi-même nous déplacer pour aller faire des émissions à l'étranger. Et on a des pigistes qui sont en France et qui partent à l'étranger pour nous. Donc tout ça fait qu'on peut aller beaucoup sur le terrain.
Et ils y vont sur le terrain.
C'est sûr que la zone intertropicale est généralement super parce qu'en termes de biodiversité, de vie, c'est complètement incroyable par rapport à ce qu'on peut connaître sous les climats tempérés comme ici. Là, par exemple, on a la chance d'être invité à aller découvrir la Nouvelle-Calédonie, qui est un des comme on dit hotspots de la biodiversité mondiale. Et bon, mais ça, c'est un vrai plaisir, quoi, parce que voir des choses comme ce qu'on ne voit pas à la maison, c'est magnifique.
La Nouvelle-Calédonie, on s'en doute, c'est pas tous les jours. Le premier terrain de C'est pas du vent, c'est bien sûr l'auditeur. Le terrain de la radio, c'est la proximité.
On a fait une émission récemment sur 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes. Bon, alors ça, c'est un très bel exemple. Par exemple, en Afrique, il y a une étude qui a été faite en Afrique de l'Ouest sur 18 langues vernaculaires. Toilette, ça se dit derrière la maison. Donc ça prouve bien que culturellement, avoir des toilettes, ce n'est pas du tout une habitude. Les gens préfèrent s'acheter un téléphone portable qu'avoir des toilettes. Alors, c'est parce que c'est culturel et puis parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière sur ces sujets-là, parce que c'est aussi tabou. Enfin bon, il y a plein de raisons qui expliquent cela. Mais dans les faits, donc dire aux gens « acheter des toilettes », ça ne marche pas. Les politiques n'investissent pas. Par contre, quand on se rend compte qu'on peut récupérer les matières fécales et les urines, par exemple, pour l'agriculture, parce que vous savez très bien que si vous laissez... Vous ne savez pas, mais c'est intéressant à savoir que, par exemple, l'urine humaine, si vous la laissez 15 jours dans des bidons sans y toucher, ça se transforme en azote. Or, l'azote favorise énormément la photosynthèse, c'est-à-dire donc la croissance des plantes. Donc, quand vous avez, par exemple, deux bidons d'urine récupérés et que vous arrosez vos champs avec ça, au bout de 15 jours, une fois que les toxines sont parties, finalement, c'est un engrais complètement naturel. Donc ça parle aux gens. Parce qu'ils se disent, au fait, c'est vrai qu'au lieu de gâcher, on pourrait récupérer. Et là, on conjugue, en fait, préservation de l'environnement, parce qu'on ne souille plus, et développement, parce qu'on évite l'achat d'engrais, de pesticides artificiels en utilisant des choses qui sont naturelles.
Entre parler d'environnement à un Européen ou bien à un habitant de l'Afrique, eh bien, c'est évident, il y a un monde fait des réalités que l'Africain endure.
En Europe, et pour simplifier, on va dire en France, parce que même en Europe et au sein de l'Europe, il y a de grandes différences. En France, on sait que la planète va mal, on entend parler d'environnement même dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, il y a de la sensibilisation à l'école. On sait que nos modes de vie sont un peu responsables des catastrophes actuelles, mais en même temps, on ne se pose pas trop de questions. Ça commence à venir, il y a une sensibilité qui monte, mais on va se dire, est-ce qu'il faut que je remette en cause un peu ma consommation ? Enfin, on est sur un aménagement du confort à la marge, je dirais. Alors qu'en Afrique, la donne est complètement inversée, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'accès à l'information sur ces sujets-là. C'est pour ça que je pense que C'est pas du vent joue un rôle même pédagogique, on essaie d'être très pédagogue sur ces sujets-là, parce que justement on s'adresse à des auditeurs qui n'ont pas accès à cette information. Les gens sont pourtant les premières victimes des changements climatiques. On sait que c'est autour de la zone de l'équateur que les changements sont les plus prégnants aujourd'hui, et la désertification, le manque d'eau, le manque d'accès à l'assainissement, la perte de la biodiversité, la déforestation qui touche le bassin du Congo, qui est quand même la deuxième forêt tropicale la plus importante après l'Amazonie au monde. Toutes ces difficultés sont concentrées en Afrique. Donc les gens les voient sur le terrain, mais ils n'ont pas accès à l'information et ils n'ont pas accès aux solutions. Donc je dirais que c'est l'inverse de nous. Nous, on est submergés de solutions et d'informations, mais on ne voit pas tellement. les conséquences des changements climatiques sur notre terrain, ni le problème de l'accès à l'eau, ni le problème de l'accès à l'alimentation. Enfin, je veux dire, nous, on est dans la surabondance.
La volonté de bouger pour l'environnement peut-elle un jour s'avérer plus forte en Afrique qu'en Europe ?
Je ne sais pas si c'est une question de volonté, je crois que c'est une question de survie. À partir du moment où le politique n'utilise pas son espace, la société civile le prend. Il n'y a pas le choix. Quand on n'a pas accès à l'eau et qu'on a soif, on se débrouille pour trouver un endroit où on peut boire. Et c'est vrai pour tout ce qui concerne l'environnement en Afrique. Il y a par exemple une association qui s'appelle les Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui a été créée au Togo il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui rassemble plus de 5000 jeunes à travers une vingtaine de pays. C'est la plus grosse ONG africaine, notamment au niveau de la jeunesse. Et là, ça marche uniquement parce qu'en effet, les gens sont motivés pour sensibiliser aux conséquences des changements climatiques, pour sensibiliser à l'utilisation des lampes solaires, pour essayer d'expliquer la question de la gestion des déchets, toutes ces choses-là. Mais c'est des gens qui vraiment méritent qu'on les soutienne et qu'on parle d'eux parce qu'ils ont un sacré courage. Il faut dire que pour s'intéresser à l'environnement, il faut redresser la tête, il faut regarder autour de soi. Et ça, on peut le faire que quand on a déjà une vie digne. Quand vous avez faim, quand vous ne savez pas comment le soir vous allez nourrir votre enfant, la préservation de l'environnement est vraiment le cadet de vos soucis. Donc les gens qui se battent pour la préservation de l'environnement sur des continents comme en Afrique méritent vraiment qu'on les soutienne.
Je suis plutôt un fasciste de l'environnement et ça fait longtemps que je suis sensibilisé à cette thématique. Donc c'est plus parti en fait d'un dégoût du capitalisme, en fait, du système libéral. Et voilà. Et donc, et très rapidement, quand on est un peu saoulé par cette manière de vivre, cette économie toute puissante, ben rapidement, on se rend compte que le problème numéro un, les conséquences numéro un sont liées à la nature, à l'environnement. Donc, c'est un peu comme ça. Au début, c'était idéologique et politique. Et puis, ben, fatalement, c'est parti vers l'environnement et la protection de la nature.
Anne-Cécile Bras a-t-elle toujours été écolo ?
Eh bien non, on m'a jeté dedans. En fait, c'est la direction de RFI qui m'a proposé de présenter cette émission à la fin de l'année 2008. J'ai accepté, évidemment ça m'intéressait un petit peu comme tout le monde, mais mon parcours est le parcours d'un citoyen lambda. J'étais absolument pas écolo, comme dit Nicolas Hulot, mais je le suis devenu. Maintenant... Aujourd'hui, on n'en est plus à dire il y a les militants, il n'y a pas les militants, on est engagé, on n'est pas engagé. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Alors, soit on ouvre les yeux, et là, on se rend compte qu'en effet, il y a des vrais problèmes et qu'il va falloir y répondre vite, et très très vite. Soit on décide de continuer sa petite vie sans trop se poser de questions, et puis, Inch'Allah. Mais je pense que là, on hypothèque quand même l'avenir de nos enfants.
L'avantage, c'est qu'avant, j'étais juste un irréductible pensant qu'il fallait presque éradiquer l'homme de la surface de la Terre. Maintenant, grâce à l'émission, je me rends compte qu'il y a peut-être des moyens un peu plus mesurés, un peu moins radicaux, de faire évoluer les choses.
C'était François Porcheron, le réalisateur talentueux de C'est pas du vent. Mais ne vous inquiétez pas, depuis qu'il y travaille, il a renoncé provisoirement à éradiquer l'humanité. On va pouvoir peut-être s'en tirer. Mais hormis François Porcheron et à la ville, quel est l'environnement d'Anne-Cécile Bras ? On veut tout savoir.
J'ai 3 enfants, je fais du sport, je fais du tennis, du footing, de la natation. J'ai un mari aussi, c'est important.
On lui dit bonjour au passage, au monsieur de C'est pas du vent.
Je vois mes amis, j'aime bien la vie culturelle parisienne, donc j'en profite beaucoup.
3 enfants ?
Oui, 3 enfants, 11 ans, 8 ans, 4 ans. Ah, ce sont mes petites lumières qui me donnent des batteries le matin. Et puis, quand c'est la saison, je fais des confitures.
Voilà, Anne-Cécile Bras fait aussi des confitures. On l'aura bien noté, ses batteries sont parfaitement naturelles et rechargeables. La direction de RFI l'a bien compris aussi. Elles sont rechargées en permanence pour aller plus loin.
C'était un choix de la direction de RFI de créer cette émission, puisqu'on est sur un média international et que l'environnement est vraiment un sujet fort aujourd'hui dans tous les pays du monde, à différents degrés, mais tout de même. Et l'idée que ça devienne une hebdomadaire a été principalement basée sur le fait que c'est un sujet qui mérite que l'on s'arrête vraiment sur les dossiers et qu'on puisse essayer d'aller plus loin. Donc au lieu de balayer l'actualité avec une quotidienne, ce qui a aussi sa légitimité. Hein. On a décidé de faire plutôt des week-ends, on va dire un peu thématiques finalement, où on continue dans la première partie du samedi à balayer l'actualité de la semaine avec un invité. La deuxième partie du samedi est consacrée à un reportage ou à une série de reportages sur une thématique. Thématique qui est l'objet d'un dossier ou d'un débat avec des invités durant l'heure du dimanche.
Moi, j'essaye de faire que les éléments soient mis en valeur, on va dire, que voilà, certains commentaires, certaines paroles soient mises en avant, ou, voilà, que ça soit joli. Si c'est joli, on a envie de l'écouter, donc voilà, donc le message passera, et voilà. Enfin, message ou pas message, d'ailleurs.
Il y a message, C'est pas du vent est une émission que Radio Éthique aime tout particulièrement. D'accord, on n'est pas les seuls, mais c'est pas une raison pour ne pas le dire.